Ok, une petite histoire personnelle dont ma maman m'a rappelé. J'étais avec elle, elle habite à Bézieux. Et donc, ma maman est la sœur de la mère de Annette et de Christine. Et elle m'a rappelé que quand elle devait accoucher de ma petite sœur, mes parents m'ont déposé chez les parents de Christine et de Annette, chez mon oncle et ma tante. Et quand ils sont venus me rechercher, mes parents, je ne voulais plus repartir. Et je criais, je pleurais, je ne voulais plus repartir. Je ne sais pas combien de temps j'étais chez vous, mais j'avais deux ans. Et je ne voulais plus repartir, je crois que j'étais une semaine chez vous, quelque chose comme ça. Je ne voulais plus repartir, voilà. Et c'était sûrement la présence du Seigneur, parce qu'eux, ils ont grandi dans le Seigneur, mais nous, on n'a pas grandi dans le Seigneur. Ma maman, malheureusement, a rejeté l'Évangile, s'est mariée avec mon père, qui était païen de chez païen. Et voilà, donc nous, on a grandi sans éducation religieuse. Il était interdit d'aller dans une église, ou dans une mosquée, ou dans une synagogue. Donc on était anti-Dieu, quoi. Et donc, pour moi, quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 21 ans à Amsterdam, en Hollande, le Seigneur a dû me trouver là-bas, à Amsterdam, et je suis revenu avec une... transformé, né de nouveau, et j'ai recherché, on a repris contact avec les cousins, et à cette époque-là, vous alliez à l'eau vive, à Fives, c'est ça? Et je me souviens, je vous accompagnais un peu de temps en temps, j'étais tout nouveau croyant, hein, dans la foi. C'était il y a de ça, allez, plus de 30 ans. Voilà, simplement pour donner l'histoire, qu'en fait, ici à Wavrin, je me sens vraiment dans la famille, et donc je me sens chez moi, donc je vais presque retirer les chaussures et mettre les pantoufles, mais voilà. Voilà, donc moi, je suis un ch'ti naturalisé israélien, j'ai la double nationalité, hein, bien sûr, ça fait 30 ans qu'on habite en Israël, et qu'on sert le Seigneur là-bas. J'ai 4 enfants, et le mois prochain, ce sera le mariage de mon fils Lior. Et aussi, j'ai la joie de vous annoncer que le disque de Lior, parce qu'il est musicien et les conducteurs de louanges, sort cette semaine, et juste avant de venir, j'ai pris quelques disques pour les amener. Le disque n'a pas encore été dédicacé, et on a fait la traduction en français de tous les chants de Lior. Mais je vous préviens, comme Jacques vous préviendra aussi, c'est pour ceux qui aiment un peu la musique, pour les roqueux, voilà, c'est ça. C'est de la louange et de l'adoration, mais ça déménage, c'est-à-dire c'est pour les jeunes. Et il y a 2 ou 3 morceaux qui vont être à la radio israélienne, donc c'est un truc de très haute qualité, ça a été mixé aux États-Unis et tout ça, on n'a pas compté la dépense parce que on espère toucher à travers ce disque les non-croyants. Tous les chants sont en hébreu. Si vous entendez, c'est de très bonne qualité. C'est vraiment le top, quoi. Et ma prière, ce que je vous demande de prier, c'est que Dieu puisse utiliser ce disque pour toucher la jeune génération en Israël. Et voilà, ce sont des chants très 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 bien. Et je vous encourage à prendre ce CD. Comment ? C'est en hébreu. C'est en hébreu, et il y a déjà quelques personnes qui veulent traduire ces chants en anglais. Vous allez peut-être entendre quelques-uns de ces chants qui vont sortir en hébreu, peut-être en français, peut-être que Jacques va nous traduire, voilà, parce que toutes les... Comment ? En français, voilà, on a la traduction plus ou moins, voilà. Voilà. Et puis, voilà, c'est dans... Alors, moi, le message que j'ai pour vous, hein, parce que... C'est très facile pour quelqu'un qui est dans l'enseignement pendant déjà une trentaine d'années de vous amener les messages formatés et tout ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est prier, demander au Seigneur, Seigneur, quel est le message que tu as spécifiquement pour cette église? Et le Seigneur m'a parlé à travers 1 Samuel au chapitre 3. Et c'est très intéressant parce que souvent, le Seigneur me donne des points comme ça. Et je retrouve les points dans la louange, dans le choix des chants, dans l'adoration, etc. Et il y avait un chant sur écouter la voix du Seigneur, écouter la voix du Seigneur, écouter sa majesté. Et je vais simplement vous donner quelques points C'est une histoire qu'on connaît tous, ceux qui ont fait l'école du dimanche. On connaît tous l'histoire du petit Samuel qui a grandi dans le tabernacle à Shiloh. Et puis le Seigneur est venu le voir pendant la nuit, il a entendu sa voix. Hein, vous connaissez cette histoire? Bon, alors on va lire un peu, il y a quelques points ici qui sont importants pour nous de comprendre. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu d'Israël et de la situation, de tout ce qui se passe, une interprétation des informations du journal télévisé. D'accord? Comme ça, vous allez comprendre un peu où est-ce qu'on se trouve exactement et à combien de kilomètres Yeshua se retrouve de revenir à Jérusalem. Parce qu'il est sur le retour, hein, il est déjà dans le Moyen-Orient et il arrive à Jérusalem. Et donc ça fait des tumultes et puis l'ennemi il essaie de bloquer tout avec une fausse religion. Et donc on parlera de ça plus tard, mais pour le moment je voudrais donner un message pour certains d'entre vous parce que je crois que le Seigneur veut vous parler, vous encourager. Parce que Dieu veut vous parler personnellement. Non pas seulement à travers la voix d'un enseignant ou d'un pasteur, mais il veut vous rencontrer dans votre chambre personnellement et vous parler. Il n'y a pas de chrétien de deuxième classe dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous ses enfants et il nous aime tous autant. Et nous sommes tous privilégiés de la même façon. Alors voilà l'histoire du jeune Samuel qui était au service de l'Éternel. Je suis dans 1 Samuel chapitre 3, si vous avez votre Bible. Et le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service déjà quand il était tout petit, juste après qu'il soit sevré. Vous vous souvenez que sa maman ne pouvait pas donner d'enfant et elle est venue pleurer dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était la grande tente où toutes les tribus venaient pour rencontrer l'Éternel, hein, à travers les sacrifices, et cette femme a pleuré. Vous vous souvenez du nom de cette femme? Hana en hébreu, voilà, Hana. Et elle pleurait, et le prêtre Élie, en la voyant, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis elle a partagé son cœur, son grand désir, c'était vraiment d'avoir un bébé, et la parole du Seigneur est venue sur elle. Dans un an, tu seras enceinte et tu accoucheras d'un enfant. Et cet enfant, elle l'a dédicacé au Seigneur. Elle en a fait un nazir, c'est-à-dire une personne où le rasoir ne pouvait pas le toucher et il ne pouvait pas boire du fruit de la vigne. Et donc, il était dédicacé à l'Éternel à un âge très petit, quand il était sevré et ramené à ce prêtre Élie, et il était là dans la tente de rencontre, la tente d'assignation à Shiloh, et il servait l'Éternel tout petit. Et voilà qu'il était maintenant, au chapitre 3, au service de l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Rare en hébreu, c'est yakar, ça veut dire très cher. Ça coûte très cher, c'est vrai, tout ce qui est rare est cher. Hein, c'est vrai? Comment? Voilà. Et c'était très rare, la parole de l'Éternel, la parole de vivante de l'Éternel, la parole de prophétie. Parce que bien sûr, il y avait la parole écrite de l'Éternel, hein, mais la parole de prophétie, la parole de l'Éternel qui venait à travers les prophètes était très rare. Pourquoi? Eh bien, on le voit parce que Élie, bien qu'il soit le grand prêtre, le sacrificateur, sa vie familiale n'était pas exactement comme on le désirait. Et surtout, on voit l'histoire de ses enfants, de ses fils qui servent dans le tabernacle, mais qui sont dans le péché. Ils se permettent de voler le sacrifice qui est donné en offrande, d'avoir des relations d'immoralité avec les personnes qui entrent dans la tente avec ces femmes. Et donc on voit qu'il y a un jugement sur la famille de Élie qui est annoncé déjà au chapitre 2, mais qui va être annoncé par la bouche de ce petit prophète, de ce tout jeune prophète Samuel. Et donc on voit que à cette époque, il n'y avait pas la parole très claire qui était donnée, la parole de prophétie qui était donnée en Israël. Très très rare on entendait la parole de l'Éternel. Nous sommes au temps des juges où chaque personne faisait ce qu'il voulait devant l'Éternel. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas le seul point de concentration. En fait, c'était le tabernacle où trois fois dans l'année toutes les tribus venaient pour apporter les sacrifices à l'Éternel. Shiloh, si vous allez en Israël, Shiloh, ça se trouve maintenant dans les territoires. Hein, c'est les territoires, ce qu'on appelle territoires occupés, on ne sait pas par qui, hein, mais ce sont les territoires. Et moi, j'adore amener des gens à Shiloh. Alors, si jamais vous venez en Israël, eh bien, on prendra une journée puis on ira à Shiloh. Vous allez voir là où était le tabernacle pendant 400 ans avant. Bien sûr que le tabernacle devient un temple à Jérusalem. Alors, voilà, donc on voit que la vision, que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple. La traduction, c'est plus tabernacle, hein, le temple de la tente de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Si vous vous souvenez, l'arche de l'Alliance, c'était une petite boîte, enfin une petite boîte comme ça, à peu près, hein, et il y avait un couvercle, et sur ce couvercle, il y avait une statue de deux chérubins. Ce sont des anges très très solides, parce que les chérubins, c'était les gros anges qui protégeaient en fait l'entrée du paradis. Et on a la description dans Ézéchiel au chapitre 1, hein, ils avaient une tête d'homme, tête d'aigle, tête de lion, tête de taureau. Et c'était les protecteurs en fait. Et au milieu des chérubins, il y avait la présence du Seigneur, la nuée, l'Esprit de Dieu qui se révélait d'une façon visible. Alors, pendant la journée, c'était comme une nuée, et le soir, c'était comme une colonne de feu. Et c'est très important de comprendre que les enfants d'Israël dans le désert étaient toujours dirigés, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas de carte, ils étaient dirigés toujours par la nuée qui venait sur le tabernacle, au milieu du tabernacle, et toutes les tribus d'Israël mettaient leurs tentes tout autour de cette nuée. C'était le point de rassemblement, c'était l'Éternel, c'était Dieu. Et le Saint des Saints, hein, dans ce tabernacle, il y avait le Saint des Saints qui était symbolisé par l'Arche de l'Alliance, hein, où sur l'Arche de l'Alliance était cette nuée. Une fois dans l'année, le grand prêtre sacrificateur entrait, hein, dans cette salle, dans cette pièce qui était complètement sans lumière. Elle était complètement sans lumière. Il faisait très très noir parce qu'il y avait un drap, une sorte de tenture, voilà. Hein, et une fois dans l'année, le prêtre venait avec les sacrifices. C'était pour le jour des expiations, le Yom Kippour, hein, le jour des expiations. Il venait pour le sacrifice pour tout le peuple. Alors les gens pouvaient, quand ils avaient péché, ils pouvaient venir tous les jours offrir un sacrifice. Le sacrifice payait en fait pour les péchés. C'était très intéressant de voir que chaque personne qui avait commis un péché venait avec son sacrifice, que ce soit un agneau, que ce soit un taureau, que ce soit un petit bouc, le petit de la chèvre, et il mettait ses mains sur la tête de l'animal et il transférait ses péchés sur l'animal. Ensuite, le sacrificateur venait et sacrifiait cet animal. C'était très très cruel. Mais c'était la seule façon de comprendre, en fait, que notre péché coûte la vie de quelqu'un, de quelque chose. Alors, au début, c'était les animaux, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et Jésus, vous vous souvenez, quand il est arrivé, Jean le Baptiste l'a vu et lui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Jésus est venu pour devenir le sacrifice parfait à la place de ces animaux. Voilà, donc on sait que Jésus est pour la protection de la cruauté envers les animaux, voilà. Et il est venu pour ôter les péchés du monde, non pas seulement de sa génération, mais de toutes les générations à venir, de tous les peuples. Et Jésus est en fait le sacrifice, notre sacrifice. Il est mort à notre place. C'était nous qui devons être sur la croix entre deux voleurs, parce qu'on a tout, on a, quand on regarde tous les commandements, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, eh bien, on les a tous brisés, parce que tu ne tueras pas, Jésus dit, si tu dis des choses mal de ton frère, tu as déjà tué. Donc on est tous des meurtriers, je crois, ici, hein. Est-ce qu'on est d'accord, on est tous des meurtriers? Voilà. Qui vole un œuf, vole un bœuf. On est tous des voleurs, hein. Des adultères, si tu penses dans ton cœur des pensées d'adultère, tu as déjà commis l'adultère. Donc, on ne peut pas échapper, on est tous des pécheurs, on est tous sauvés par la grâce, par le sacrifice, le sang de Yeshua. Ici, on se trouve dans une période avant le sacrifice de Yeshua, c'est le sacrifice des animaux, toujours, mais qui montre, comme il est dit dans le livre des Hébreux, hein, 9, 10, 11, hein, c'est l'ombre des choses, hein, la loi c'est l'ombre des choses. Alors, quand vous avez l'ombre d'un pain, hein, et vous voyez l'ombre d'un pain, c'est très bien, on sent peut-être un peu la saveur de ce pain, mais l'ombre du pain, c'est pas vraiment le pain qu'on mange, hein, c'est différent. Si on a vraiment faim, eh bien toutes les ombres, oui, c'est bien, c'est tranquille, mais ça rassasie pas. Et la loi est toujours l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire c'est la silhouette, hein. Voilà ce qui se passe en théorie, mais maintenant il faut manger et goûter combien l'Éternel est bon, et ça c'est à travers Jésus qui s'est incarné en tant qu'homme, qui est mort pour nous sur nos péchés, qui a conduit cette nouvelle alliance. Ou dans cette nouvelle alliance, dans le livre de Jérémie 31-31, il est dit, « Eh bien, j'écrirai ma loi dans vos cœurs et vous me connaîtrez. » Et le mot « connaître », c'est d'avoir une relation personnelle, intime. Adam a connu Ève, hein. Et pour Dieu, lui, son désir, c'est d'avoir une relation personnelle, intime avec nous, c'est de rentrer dans notre âme, dans notre conscience, dans notre esprit, et c'est le mot tabernacle. Le mot tabernacle, mishkan en hébreu, ça veut dire d'avoir cette relation où Jésus est venu s'incarner et est venu habiter parmi nous. Son grand désir, c'est de rentrer dans notre esprit, et que nous soyons un avec lui, comme lui, comme Yeshua et le Père sont un. Voilà, c'est le grand désir du Seigneur, c'est le grand désir de l'Éternel, mais il ne va pas s'imposer, il ne va pas le faire par la force. Donc, il y a un moment dans notre vie où nous allons devoir dire, voilà, Jésus, je te reconnais comme mon sacrifice, donc tu es mon sauveur, et si tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, parce que c'est toi, Dieu, qui t'es incarné comme homme. Et maintenant, je t'ouvre la porte de mon cœur et j'accepte que tu entres en moi. Et comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit « Voici, je frappe à la porte. » Hein, Jésus dit « Je frappe à la porte. Si tu ouvres, eh bien, je viendrai et je mangerai avec toi. » Et mangerai, dînerai avec toi, souperai avec toi. Hein. Ça parle de l'intimité. L'intimité d'être ensemble, de partager la vie, de partager le repas, de partager la nourriture spirituelle. Et donc, c'est l'invitation du Seigneur à chacun d'entre nous de venir. Et cette porte que l'on ouvre dans notre cœur, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Où on ouvre la porte de notre cœur par choix, et le Seigneur rentre par son Saint-Esprit et nous transforme de l'intérieur. Quand on se donne à lui, alors il entre d'abord par la porte d'entrée, puis il va visiter toutes les chambres de notre vie, et puis on passe par la repentance, le pardon, la guérison, la transformation des pensées, le changement des pensées, jusqu'à ce qu'on devienne plus conforme, de plus en plus à l'image de Christ. Alors ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Non, je rigole. Ça prend toute notre vie. Et plus on connaît, et plus on s'avance, et plus on voit, oh là là, j'ai un long chemin. C'est comme on monte dans les montagnes. Vous savez, j'ai fait une balade il y a quelques jours en montagne, là, avec les frères. Et puis, je me croyais déjà arrivé. Ah oui, c'est le sommet. Puis on arrive au sommet, puis ça monte encore, ça monte encore, ça monte encore. C'est ça la vie chrétienne. Ça monte tout le temps. Et plus on sait, plus on réalise qu'on sait rien, quoi. On sait un tout petit peu. Mais la transformation du caractère, la transformation pour être conforme à l'image de Jésus. Moi, Jésus, c'est mon héros. Yeshua, c'est mon héros. Je n'ai pas d'autres héros dans ma vie, à part ceux qui ont, qui, qui, qui ont imité dans l'histoire aussi Yeshua. Moi, j'aime beaucoup lire les biographies. Hudson Taylor, ça c'est aussi Wilberforce, si vous connaissez, celui qui a transformé l'esclavage, qui a aboli l'esclavage en Angleterre, ça c'est mes héros, ça, qui ont changé un peu la société par leur foi, à travers leur foi. Bien, alors, on revient à ça quand l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu, là où il y avait la présence, la Shekhina de Dieu, et il se passe quelque chose ici. L'Éternel appela Samuel. L'Éternel appela Samuel. Et il répondit, me voici. C'est-à-dire que Samuel a entendu une voix audible. Une voix audible. Il l'a appelé. Ou par les oreilles, par ses oreilles physiques, ou par les oreilles de son cœur, parce que vous savez que le cœur, il a des oreilles. Hein, où il a entendu la voix de l'Éternel. Je me souviens, moi, quand j'étais à Amsterdam, Dieu m'a parlé, j'étais en train de lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'était le seul livre religieux que j'avais pas lu. J'avais lu les livres des Tibétains, j'avais lu le Coran, j'avais lu la Bhagavad Gita, j'avais lu tous les livres religieux, j'étais intéressé, je cherchais la vérité. Mais le Nouveau Testament, c'était le seul livre que j'avais pas lu. Vous savez comment Satan aveugle l'entendement des non-croyants, hein. Tu peux lire toutes les religions, mais ne lis pas le Nouveau Testament, attention. Hein, Satan ne veut pas qu'on lise le Nouveau Testament parce qu'à travers cela, eh bien, il y a la révélation de l'incarnation du Seigneur sur la terre de Jésus. Et je suis tombé sur, j'étais un panthéiste, je croyais que toutes les religions menaient à la vérité. Donc, quelle que soit ta religion, pour en finir, tu vas arriver au Créateur. Et j'étais en train de lire le Nouveau Testament, Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça m'a interpellé tout d'un coup, parce que pour moi, Jésus, il faisait partie de mon panthéon. Il était un des chemins pour aller à l'absolu, au Dieu. Mais là, il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, il limite en fait toutes les autres religions, toutes les autres pistes philosophiques sont anéanti parce que Yeshua dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Toutes les autres religions disent, voici le chemin, voici la vérité, voici la vie. Mais Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis... C'est quoi la vérité? C'est une personne, c'est Yeshua. Hein, c'est Ponce Pilate qui demande, qu'est-ce que la vérité? Il avait devant lui la vérité. Je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. J'ai dit, c'est pas possible. Et mon système philosophique, théologique s'est écroulé justement par ce verset. Je ne pouvais plus être panthéiste. Si vous désirez rester panthéiste en croyant que toutes les religions mènent à Dieu, je devais rejeter l'enseignement de Jésus et alors j'étais plus panthéiste. Parce que rejeter en fait Jésus qui était le fondateur du christianisme, à mes yeux, à ce que je pensais à cette époque-là, donc je ne pouvais plus être panthéiste. Dans un autre sens, où j'acceptais Jésus et je devais rejeter, donc j'étais, ça y est, c'était fini, je ne pouvais plus être panthéiste. Mon système philosophique que je m'étais construit pendant quelques années, à travers les lectures de philosophie, de livres religieux, s'écroulait devant moi et je me retrouvais sans rien. Et tout d'un coup, quelque chose s'est passé en moi, Dieu a mis le désir de l'éternité dans le cœur de la personne. J'ai dit, mais alors, c'est quoi la vérité? C'était ma prière, c'est ça que je cherchais en fait depuis que j'étais tout petit. C'est quoi la vérité? C'est quoi le sens de ma vie? Et j'ai entendu la voix de Dieu. Et je ne sais pas si c'est dans les oreilles ou si c'est dans le cœur, parce qu'à cette époque-là, c'était... Mais j'ai entendu Jésus me dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis celui que tu cherches. J'étais dans ma chambre à Amsterdam et je savais que Jésus était le chemin. Il était la vérité, il était ma vie. Et je lui ai dit, ok, je suis prêt à te suivre, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai été visiter ces chrétiens qui habitaient dans une communauté. J'ai été les voir et ils m'ont dit, j'ai dit voilà, Je veux suivre Jésus. Et c'était ils ne savaient pas quoi faire avec moi. parce que je venais d'un milieu très très difficile aussi. Et ils m'ont dit, bon, si tu es vraiment sérieux, eh bien viens, et viens habiter avec nous. Et je suis tout de suite rentré chez moi, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai terminé le contrat de mon appartement, j'avais un appartement à Amsterdam, petite valise, voilà, je me retrouve le lendemain matin, je frappe à la porte, tout étonné, ils me voient, qu'est-ce que... Eh bien, vous m'avez dit de venir, moi je viens suivre Jésus. Voilà, et ça a commencé comme ça. Je ne savais pas quoi faire. Le premier jour, je me disais, bon, ça y est, j'ai donné mon cœur à Jésus, donc j'attends qu'il vienne me prendre. Moi, j'ai fini mon séjour sur terre. Hein, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, donc je croyais qu'il allait me prendre, c'est fini, voilà. J'ai fini de lutter contre Jésus. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, eh bien voilà, le Seigneur m'a gardé encore jusqu'à aujourd'hui. Hein, sûrement qu'il m'utilise, hein, sur cette terre. Mais moi, je suis prêt quand il le veut. Parce que il est le chemin, il est la vérité, il est ma vie. Et ici, on voit que Samuel, il entend la voix de l'Éternel, mais il ne connaît pas l'Éternel. Donc lui, quand il entend une voix, il pense, c'est sûrement Élie, le grand prêtre, qui m'appelle. Alors il dit, il courut vers Élie et me dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Il a confondu la voix de l'Éternel et la voix de Élie. Et Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Vous savez, quand on n'entend pas très bien la voix de l'Éternel dans l'oreille droite, il nous parle dans l'oreille gauche. Et souvent, on a besoin d'entendre deux fois. Hein. Samuel, Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Regardez ça. Samuel ne connaissait pas le mot « yada », hein, connaissance intime, l'Éternel. Il était au service de l'Éternel. Il était à côté de l'Alliance. Il avait entendu les enseignements, mais ne le connaissait pas personnellement. Et voilà, il ne pouvait pas comprendre que c'était l'Éternel qui lui parlait, cette relation personnelle, intime. Samuel, je suis au verset 7, hein, ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore déjà été révélée. Voilà. Il y a différents stages dans notre vie. Hein, nous connaissons au sujet de Jésus jusqu'à ce que nous puissions le connaître personnellement, où cette parole est révélée à nos cœurs personnellement. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Il y a une troisième oreille, hein, je ne sais pas où elle est, mais voilà. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie, finalement, il a compris, finalement, hein, après trois fois, que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Hein, » en hébreu, « Daber Adonai ki avdecha. » Avdecha, c'est plus que serviteur, c'est ton esclave. Hein, ton esclave t'écoute. Voilà. Alors, dans cette phrase-là, est-ce qu'on peut dire ensemble « parle, éternel, car ton serviteur écoute ». Alors, dans cette phrase-là, quel est le mot qui est le plus difficile à accepter ? Écoute ? Serviteur, ok, d'accord, ok. Parle, éternel, car ton serviteur écoute. La relation entre entendre la voix de Dieu et devenir le serviteur de l'Éternel, on voit ici la connexion. Dieu est prêt à nous parler quand on accepte de devenir son serviteur. C'est-à-dire, c'est plus nous qui nous servons. Hein? Quand il y a une voiture, c'est plus nous qui conduisons, on est assis sur le siège arrière. C'est ça la vie chrétienne. Tu es assis sur le siège arrière et c'est Jésus qui conduit. C'est Jésus qui conduit. C'est Jésus qui est ton volant et pas ta roue de secours. Parce que souvent dans la vie chrétienne, c'est ça, Jésus c'est la roue de secours. Oui, ça va, j'ai ma vie, je fais tout ce que. Mais quand je suis dans des grands problèmes graves, alors j'ai la roue de secours, c'est Jésus. Ah, c'est super. Ah, Jésus, il est avec moi dans la voiture. Il est derrière dans le coffre. C'est la roue de secours. Non. Jésus veut être ton volant. Il veut être. C'est lui qui conduit ta vie. Parle, Éternel, car ton serviteur. Et en disant serviteur, qu'est-ce qu'il veut dire, Samuel? Ça veut dire, je suis prêt, non pas seulement à t'entendre, à t'écouter, à t'entendre, mais à faire ce que tu me dis. Parce qu'en fait, c'est ça, écouter. Écouter, hein, Shema Israël, hein, en hébreu, Shema, écoute, ça veut dire, mets en pratique. Pas seulement entends les informations, mais mets-les en pratique. Hein. Et donc, Élie lui recommande cette prière, qui est une bonne prière que je recommande à chacun d'entre vous. Parle, Éternel. Car ton serviteur écoute. Hein? Donc, pour parler, il faut écouter. Moi, j'ai un ami, un très très bon ami. Hein, quand il m'appelle au téléphone, je ne peux pas en placer une. Il a besoin de parler. Donc, il dit, écoute, je t'appelle, comment ça va? Alors, j'essaie de lui dire comment ça va. Et puis, une fois, je suis au milieu de ma phrase, il dit, et puis, je vais te raconter, blablabla. Une demi-heure, il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer. Voilà. Bon, il n'écoute pas, et c'est moi qui écoute, mais c'est lui qui parle. Voilà. Tandis que nous, on a besoin pour écouter l'Éternel, eh bien, qu'on fasse le calme et qu'on le laisse nous parler. Et ici, Élie lui dit, eh bien, c'est ce que tu vas faire, mon petit. Il est tout jeune, hein, on ne sait pas quel âge il a, mais il est tout jeune, hein. Eh bien, tu vas dire au Seigneur, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Est-ce que vous avez déjà entendu le Seigneur prononcer votre nom? C'est une révolution. Quand on entend Dieu prononcer notre nom, c'est fini. On est acquis à sa cause pour toujours. Et une bonne prière à demander, Seigneur, appelle-moi par mon nom. Parce que ça te donne un sentiment de sécurité, un sentiment de sa présence. Nous avons tous un nom. Nous sommes tous uniques. Je parlais hier on appelle ça les empreintes digitales. Quand on regarde ces empreintes digitales, nous sommes tous uniques. Nous sommes créés d'une façon unique. Et Dieu nous parle d'une façon unique. La façon dont il va me parler, ce ne sera pas la même façon dont il va parler à Jean-Luc. Ce sera pas la même façon dont il va parler à Christine. Il nous parle tous d'une certaine façon personnelle que nous pouvons comprendre. Il veut créer avec nous, chacun d'entre nous, une relation personnelle. Et là, on voit que Élie parle à Samuel et Samuel met en pratique. Quand Dieu se révèle en l'appelant par son nom, Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors, un quiz là, une question. Qu'est-ce qui manque dans la réponse de Samuel? Quel est le mot qui manque dans la réponse de Samuel par rapport à celui de Élie? Regardez bien. Comment? Moi, j'écarte, ton serviteur écoute, mais il manque un nom, un mot encore plus grand. Hein? Non? Comment? Maître, ok, la traduction, je ne sais pas quelle traduction vous avez, mais la traduction, c'est éternel. Adonai. Ok? Élie lui dit, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et lui, il dit, parle, car ton serviteur écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Il ne le connaît pas encore? Il est prêt à l'écouter? Pourquoi il ne dit pas, parle, Éternel, car ton serviteur écoute? Il dit, parle, car ton serviteur écoute. Comment? Il sait que. Il n'est pas sûr? Ok. Il n'est pas encore prêt? Bon, ok. Moi, je pense que c'est l'inverse aussi. Hein? Eh bien, tu as pas moi j'ai pas besoin de dire parle Jean-Luc parce que tu vois, je sais que c'est Jean-Luc qui me parle. Il sait déjà que c'est l'Éternel. Il a déjà maintenant, il est entré en contact, il a fait contact. Donc il dit parle, ton serviteur écoute. Hein? Parle, ton serviteur écoute. Et qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur ici? L'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison en perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Oh là là, une jeune personne qui rencontre l'Éternel et tout de suite, il a une parole dure pour celui qui l'a élevé. Jésus, il a dit, je ne suis pas venu ramener la paix dans le monde. Je suis venu apporter une épée pour diviser l'humanité en deux. L'humanité essaie de se rassembler, la mondialisation. Nous sommes le monde, ensemble, unis. Jésus, il a dit, je suis venu diviser l'humanité en deux. Les boucs et les brebis. Les croyants et les non-croyants. Ceux qui ont reçu le salut par la grâce et ceux qui ont rejeté le salut. Et ici, il y a une interpellation ici pour nous, chacun d'entre nous, si nous voulons vraiment entendre la voix du Seigneur, alors nous entendrons des paroles qui seront des paroles peut-être difficiles pour nos voisins, pour les membres de nos familles d'écouter, d'entendre. Et ici, Élie et Samuel, il est confronté ici à cette parole de l'Éternel que l'Éternel va apporter un jugement sur Élie. Pourquoi ? Parce que l'Éternel, il est un Dieu saint et il veut purifier sa maison et apporter un changement. Il ne va pas laisser les fils de Élie, les pécheurs, continuer à servir dans le Saint des Saints. Et ainsi, il y a cette parole qui est une parole de vérité et une parole qui a besoin d'être amenée par une bouche d'homme. Vous savez, le grand problème du temps de Jérémie, quand les Babyloniens étaient à la porte de Jérusalem et ils voulaient rentrer, il y avait le siège de Babylone, le siège de Jérusalem par les Babyloniens, et bien tous les prophètes de Jérusalem disaient « Vous inquiétez pas, ça va aller ». Dieu va détruire les Babyloniens, on va s'en sortir, il n'y aura aucun problème. Et Jérémie était le seul prophète qui s'est tenu et dit, vous êtes des faux prophètes. Vous essayez de réconforter le peuple par des paroles qui ne sont pas des paroles de vérité. Et souvent, quand on regarde les actualités à la télévision, et qu'on voit des faux prophètes se lever et dire « Ne vous inquiétez pas, les réacteurs au Japon, ça va aller, il y a seulement 1000, au début il y avait 1000 morts, après 2000 morts, maintenant il y a des centaines de milliers de personnes qui ont disparu. » Voilà, on essaie de rassurer. Vous savez, on essaie de rassurer. Moi je suis toujours sidéré en France quand je viens ici et que j'entends les juifs français qui ont fait leur alia, qui sont venus en Israël, ils ont acheté des maisons en Israël, il y en a plus de 2000 cette année. Et ils me disent, il y a plein d'antisémitisme, etc. Et je dis, vous êtes sûr? Mais j'entends rien à la télévision, j'entends rien dans les journaux. Oui, oui, nous on quitte parce qu'on en a marre, on est persécutés. Il y avait plus de 300 actes antisémites cette année. Contre des juifs, contre des cimetières juifs, contre des synagogues, etc. Mais on n'en parle pas dans les actualités. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de rassurer. Vous inquiétez pas, tout va bien en France. Vous savez, oui, on brûle des voitures dans les banlieues, mais vous inquiétez pas, tout va très bien, Madame la Marquise. Ça va aller, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, on a la révolution aux portes de Paris, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Soyez tranquille. En attendant. Les juifs français, eux, ils font déjà leur alia, ils ont déjà acheté des maisons, ceux qui peuvent acheter des maisons ou louer, etc. Ils se préparent pour les mauvais temps, parce qu'il y aura des mauvais temps en France. C'est ça qu'ils disent. Hein. Moi, j'habite en Israël, mais c'est ça qu'ils me disent à moi. Et on voit ici, dans ce message de l'Évangile, qu'il y a aussi un message qui doit interpeller les gens pour leur dire, préparez-vous, que peut-être il y aura des temps mauvais qui vont venir. Et peut-être, je ne sais pas si vous vivez ces temps mauvais ou si vous ressentez que nous entrons dans une nouvelle période dans l'histoire. mais pour vous dire simplement que dans le monde entier, il va y avoir ces signes avant-coureurs du retour de Jésus. Et j'en ai parlé hier, c'est dans le livre de Matthieu 24 et 25, où Jésus annonce son retour. Le roi reviendra à Jérusalem de la même façon dont il est parti de Jérusalem du mont des Oliviers. Hein, il est monté dans le ciel, il a envoyé son Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, attendez la promesse du Père, qui est la promesse du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, nous on habite à côté de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, hein, Wavrin, Thumri, l'extrémité de la terre, moi j'étais en Corée, j'étais de voir ces milliers de chrétiens au Brésil, les églises pleines, de voir que la plupart des continents ont reçu l'évangile et grandissent dans cette révélation de l'évangile. L'Europe, qui a reçu l'évangile il y a 2000 ans, est un très grand combat. Et vous savez, pour moi, c'est très clair selon les Écritures que quand Jésus revient, il fera tomber tous les faux prophètes, toutes les fausses religions. L'islam est en train de s'écrouler au Moyen-Orient, malgré tout ce qu'on entend. Vous savez, l'islam, c'est un chien qui aboie très fort, c'est un gros Doberman. Il essaie de faire peur. Il essaie de faire peur et il n'hésite pas à la violence et à la haine parce que c'est Satan qui anime l'esprit de l'islam. On sait que c'est une religion qui est une religion de cruauté. Quand on lit le Coran, on voit très très clairement, et moi je ne fais pas de différence entre les islamiques modérés, les islamiques non modérés. Ceux qui sont modérés, ce sont ceux qui n'ont pas lu le Coran et qui sont toujours influencés des concepts judéo-chrétiens, de la Bible. Et c'est les imams qui habitent ici dans la région qui essaient de dire ne vous inquiétez pas, nous on n'est pas les talibans, on n'est pas le djihad, on n'est pas le Al-Qaïda, mais quand vous lisez vraiment le Coran, vous voyez que en fait le but du Coran, l'islam, ça veut dire soumission, ça veut dire d'amener à la soumission tous les dhimmis, tous ceux qui sont d'autres religions. Et je suis très content qu'il y a cet enseignement justement comment apporter l'évangile aux musulmans qui sont sous l'emprise justement de ces ténèbres. Et ici, nous voyons que l'islam est en train de reculer dans certains pays du Moyen-Orient. Justement, l'évangile est en train de grandir, mais comme vous vous souvenez, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand les alliés américains, anglais, français étaient aux portes de l'Allemagne, en 1944, décembre 1944, il y a une contre-offensive des Ardennes. Et Hitler a envoyé le reste de son armée, les Panzer, ils sont sortis. Et pendant un mois, jusqu'à trois mois, il y a eu une résistance dans les Ardennes. Et c'était pour essayer d'impressionner les alliés. On a encore de la force, encore de la puissance. La contre-offensive de l'islam, c'est en Europe. Le dernier bastion, vous savez, dans la Seconde Guerre mondiale, la dernière place qui restait encore aux Allemands après la capitulation, eh bien, c'était Jersey et Guernesey. Les îles de Jersey et Guernesey étaient les dernières îles qui sont tombées des mains des Allemands, juste entre l'Angleterre et la France. Et c'est la contre-offensive de l'islam, c'est l'Europe. Parce qu'ils essaient d'impressionner. Regardez le nombre de musulmans maintenant qui viennent à la de Français qui viennent à la foi islamique. Hein. Ils sont sur les marchés. Nous, on n'est pas encore sur les marchés. Ils ont les Corans sur les tables. Nous, on n'a plus les Bibles sur les tables dans les marchés. Pourquoi? Je me demande. Hein. Il faut se réveiller. Parce que maintenant, on n'a plus besoin d'aller en terre de mission pour apporter l'évangile aux musulmans. Ils sont là, au milieu de nous. Et vous savez, les étrangers, il y a les Écritures qui disent que nous devons être hospitaliers aux étrangers, les recueillir, les aimer, leur apporter. Vous savez, quand vous aidez quelqu'un, un nouvel immigrant avec ses papiers, eh bien tout de suite, vous liez d'amitié avec lui. Et à travers cette amitié, vous pouvez lui annoncer la chose la plus précieuse que vous aviez, c'est l'évangile de l'amour. Et je crois qu'il y a une différence entre détester les faux prophètes, les fausses religions comme l'islam, et aimer les musulmans. Parce que Dieu a un cœur pour les musulmans. Il a un cœur pour les maghrébins. Il a un cœur pour les arabes. Il les aime, il veut les sauver. ce sont aussi des enfants d'Ismaël, où il y a une bénédiction aussi sur Ismaël. Et quand on voit ici cette relation que Dieu veut nous donner personnellement, afin que nous puissions nous tenir sur la brèche et dire, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Okay? Il y a la grâce de Dieu, il y a le salut de Dieu, il y a le pardon de Dieu, il y a la guérison de Dieu. Et on voit l'exemple de Jésus, il est avec les prostituées, il est avec les gens de mauvaise vie, ils sont aimés, ils sont acceptés. Et par contre, lui, il se tient contre les pharisiens, ceux qui croient savoir. Hein, ce sont les religieux de nos temps. Et donc, il y a une part. Et la façon dont Jésus parle, il ne fait pas deux poids, deux mesures. Il a une parole de grâce, une parole de guérison, une parole d'encouragement, et de l'autre côté, il n'hésite pas à parler contre le péché. Et c'est ça qui doit nous animer quand nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Ne pas avoir peur du « quand dira-t-on » Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et souvent, moi, je vois dans les églises, une des plus grandes peurs, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire quand j'ouvre ma voix et que je dis « moi, je suis chrétien, je suis croyant en Jésus », on a peur du ridicule. On a peur d'être persécuté, on a peur d'être attaqué. Moi, je peux vous raconter l'histoire comment j'étais attaqué dans les rues de Tel Aviv par des rabbins orthodoxes. Mais une fois qu'on est passé par la persécution, eh bien, ça y est, on est vacciné, on a plus peur de rien. Hein? Quand j'ai dû aller au commissariat de police parce que j'étais accusé de certains mensonges, etc. Hein? Souvent, quand nos voitures sont on crève les pneus de la voiture ou on nous crache à la figure, ça arrive. C'est le prix que nous payons pour notre foi. Parce que la foi en Jésus, c'est pas une foi qui est très, acceptée en Israël. C'est vrai, nous avons la démocratie, ce n'est pas le gouvernement israélien, attention que je vous dis. Israël est le seul pays démocratique dans le Moyen-Orient. C'est le seul pays où nous avons la liberté de religion, la liberté de culte. Hein, nous nous réunissons en liberté, mais les mentalités des personnes ne sont pas encore transformées. Donc c'est un État démocratique, mais les mentalités des personnes ne sont pas transformées. Donc il y a toujours ce sentiment de « Ah, vous croyez en Jésus, vous êtes des missionnaires », ce qu'on appelle les missionnaires, c'est-à-dire des gens qui essaient de voler les âmes des personnes. Hein. Vous êtes Hitler a essayé de tuer physiquement et vous essayez de tuer spirituellement. Et donc on est accusé de à tort et à travers, bien sûr, parce que tout ce qu'on désire, nous, en fait, c'est amener la bonne nouvelle au peuple d'Israël, comme Paul le faisait, Paul qui était juif, rabbin, et qui disait « Mon plus grand désir, c'est de voir mes frères, selon la chair, recevoir le Messie, recevoir Jésus. » Donc, vivre dans certains pays, c'est pas toujours évident, et Jésus veut nous encourager à ne pas avoir peur de l'homme, mais à le craindre lui. Ne craignez pas celui qui ne peut rien vous faire, en fait, parce que quand nous sommes croyants en Jésus, hein, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et c'est un encouragement que Dieu veut vous donner de prendre courage, ne pas avoir peur, de demander au Seigneur de nous donner ce courage à apporter le témoignage. L'évangile est la puissance pour quiconque croit. Premièrement le juif, mais aussi pour le français. Et si on n'apporte pas la bonne nouvelle, si on ne parle pas, alors il y aura toujours les faux prophètes qui viendront et qui parleront, et qui prendront notre place. Et souvent, ce qu'on voit dans une civilisation, dans une culture, c'est que là où les chrétiens sont silencieux, eh bien, il y a les faux prophètes, les fausses religions, les faux enseignements, parce qu'il y a un besoin, un désir dans le cœur de l'homme de rechercher la spiritualité, de rechercher Dieu. Et si nous n'apportons pas ce message, eh bien d'autres l'apporteront à notre place et ça créera une confusion, ça créera une situation. Et souvent, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, ce n'est pas seulement ce qui donne de l'assaisonnement, mais le sel, à l'époque de la Bible, c'était le seul moyen de conserver la viande, le poisson. Il était salé. On ne pouvait pas le manger après une journée ou deux. Il faisait tellement chaud, il fallait le saler tout de suite. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui salez la civilisation, la culture. afin que toutes les que tout le péché ne puisse pas grandir, que toute cette viande qui a dans le monde puisse être conservée, que les standards de moralité puissent être conservés. C'est à vous d'agir. Et je dis à vous, pas seulement à vous, à Wavrin, hein, mais je dis toute l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église de tous ceux qui se reconnaissent serviteurs de l'Éternel. Il faut quitter ces dénominations, ces carcans, ces petits « moi je suis de ceci, moi je suis de cela ». Il faut se rassembler, hein, que de toutes les dominations, de tous les mouvements, pour avoir un message qui soit clair. Et je continue dans ce texte ici, je vais terminer là. Après que Dieu se révèle à Samuel et lui donne, voilà le message, c'est le message qui est très difficile. Samuel resta couché jusqu'au matin. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, je suis au verset 15. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Et souvent, peut-être nous, on a reçu un message pour quelqu'un ou pour un peuple. Et on a peur d'apporter ce message. Et il faut comprendre Samuel, bien sûr, lui, il a peur d'apporter ce message. Il va heurter sûrement les sentiments de cette personne qui l'a éduqué, chez qui il habite, hein. Mais on voit que Élie appela Samuel et dit « Mon fils, me voici. Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ?» Et Élie le force à parler. Et il ouvre sa bouche et il parle. Et il raconte. Voilà. « Si tu me caches quelque chose de tout ce que t'as dit, Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. » Et Élie dit, c'est l'Éternel, je sais. Élie a déjà entendu. Il savait qu'il allait être jugé à cause de ses enfants. Et il dit, voilà, je sais que c'est l'Éternel qui m'a parlé. Que l'Éternel fasse ce qu'il semble bon. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, une fois que Samuel a entendu la voix de l'Éternel? On lit dans le verset 19 que l'Éternel était avec lui. Et écoutez ça. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Moi, je vous recommande, quand vous allez vous coucher, à côté de votre Bible, j'espère que vous lisez votre Bible avant d'aller vous coucher, c'est bien, c'est toujours, ça purifie l'esprit, ça nous fait faire de beaux rêves. On lit la parole de l'Éternel, et à côté, on a un petit calepin, une petite morceau de papier avec un stylo. Parce que Dieu souvent veut nous parler. Et souvent, on n'a pas les moyens d'attraper sa parole. C'est pour ça que moi je recommande à tous les gens qui veulent grandir dans la foi d'avoir comment ça s'appelle, un petit calepin, voilà, et d'écrire son journal. Et moi, j'ai un journal. Et je regarde 20 ans avant ce que le Seigneur m'avait donné. Et je regarde, ce sont des paroles que le Seigneur nous a données il y a des années et qui se réalisent. Et souvent on oublie ces prophéties. On est des êtres humains, nous nous concentrons plus sur les mauvaises choses que sur les bonnes choses. Et souvent on se concentre sur les événements qui nous sont arrivés, qui ont été très difficiles dans notre vie, ça on se souvient parce qu'on a une mémoire qui est imprégnée, hein, mais on se souvient très mal des bénédictions. Et le Seigneur nous dit, compte tes bénédictions, souviens-toi que l'Éternel est bon. Et je vous recommande, si vous voulez vraiment grandir dans votre foi, si vous êtes affermi dans votre foi, eh bien, que vous ayez un petit journal, un journal de bord. Hein, qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et de temps en temps, de revenir en arrière, de voir, waouh, le Seigneur, il m'a parlé de ça, et voilà, ça s'accomplit. Je vois l'accomplissement des prophéties dans ma vie, dans la vie de notre communauté, par des choses qui ont été dites il y a une quinzaine d'années. On voit finalement le fruit de ce qui a été dit il y a une quinzaine d'années, ce qui était annoncé. Et Dieu veut toujours annoncer sa parole par ses serviteurs. Et on voit ici que l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète en Israël. Alors, pourquoi Dan, c'est le nord, Beersheba, c'est le sud. Pourquoi les gens ont reconnu que Samuel était prophète en Israël? parce qu'il entendait la voix de l'Éternel, parce qu'il annonçait la parole de l'Éternel et qu'il gardait les paroles de l'Éternel. Vous savez, quand vous êtes des personnes où vous avez une intégrité, quand vous entendez la voix de Dieu, parce que je crois que c'est la plus grande chose pour nous qui est importante, d'entendre, d'écouter la voix de Dieu et de l'annoncer, les gens vont venir du monde entier pour venir vous écouter. Les gens vont venir du village ici pour venir vous écouter. Vous entendez la voix du Seigneur ? Moi, j'ai des voisins qui ne sont pas du tout croyants, mais quand il y a des choses difficiles qui se passent, eh bien tout de suite, c'est le téléphone, ils viennent me voir. Qu'est-ce que Dieu te dit ? Dieu, mais tu ne crois même pas en Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu entends ? Ils savent que nous entendons le Seigneur. Ils savent que nous sommes dans une relation avec lui. Et c'est ce qui va se passer quand les temps vont être mauvais. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le phare quand tu auras la tempête. Ils vont venir à vous, ils vont vous demander, et à ce moment-là, il faut avoir des réponses. Il faut être prêt. Et c'est ça que le Seigneur me dit de vous dire. Préparez-vous. Préparez-vous parce que des gens vont s'accrocher à vous. Vont s'accrocher à vous quand ils auront plus d'espoir. Quand ils auront plus le goût de vivre. Ils vont venir à vous. Et c'est vous qui leur donneront à manger. C'est vous qui leur donneront les paroles de vérité. C'est vous qui êtes la lumière, qui êtes le sel, qui êtes les fils du royaume. Votre Père est roi. Vous êtes tous princes et princesses, vous régnerez ici sur cette terre. Quand Jésus revient et établit son millénium, eh bien, un de vous sera sûrement le maire de Wavrin. Et peut-être, un de vous sera peut-être dans la présidence de la France. Nous sommes les héritiers du royaume. Écoutez, tous ces politiques qui ne sont pas croyants, eh bien, ils vont finir bientôt. Et c'est nous qui entrerons dans le gouvernement de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Que vous êtes appelés à régner avec Christ. Qu'il règne sur terre, vous régnez avec lui sur terre. Qu'il règne dans le ciel, vous êtes avec lui dans le ciel. Hein? Mais on le sait, vous êtes appelés à avoir une position d'autorité. Que ce soit à l'école maternelle, hein? Que ce soit avec vos voisins, que ce soit avec vos membres de votre famille, c'est le plus dur. Hein? Moi je reconnais, c'est le plus dur. Je prie, ça fait 30 ans que je prie pour mes parents. Ils ne sont pas encore venus au Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être vous allez prier pour mes parents et moi je prierai pour les vôtres, d'accord ? Hein, il n'y a pas de prophète dans sa propre ville. Mais nous sommes appelés à une position d'autorité. Mes frères et mes sœurs, l'ennemi essaie de nous mentir. Il nous dit, non tu n'es pas assez digne, tu n'es pas assez spirituel, tu n'es pas assez ceci, assez cela, assez fort, assez courageux. C'est du mensonge. Nous avons été rachetés. Vous vous souvenez de Gidéon ? Gidéon, c'était quelqu'un qui se planquait, qui se cachait pour essayer de ramener un peu de nourriture parce que tous les Médianites, ils avaient tout pillé, il ne restait plus rien, il était caché. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus avant qu'il soit incarné homme, hein, l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, dit « Oh, héros, vaillant, courageux !» C'est comme ça que le Seigneur vous appelle. « Tu es vaillant et courageux. » Tu es un héros vaillant et courageux. Comment tu t'appelles ? Michel, tu es un héros vaillant et courageux. C'est ce que tu es. C'est ton identité. L'ennemi a essayé de te mentir, mais maintenant il faut accepter cette identité. Tu es un héros vaillant et courageux. Dieu t'a appelé pour des aventures avec lui. Pourquoi quand on va au cinéma, on cherche des films, les hommes, c'est les films d'aventure, les femmes, c'est les films d'amour, c'est vrai ? Parce que nous sommes appelés à aimer et être aimés, aimer et être aimés, et c'est très naturel qu'on recherche l'amour et qu'on le reçoit. Et souvent, on va dans les films. Pourquoi ? Parce que notre vie peut-être manque un peu de cet amour. Et au lieu d'aller voir ces films, si on vivait notre vie comme un film, si on aimait les gens et si on acceptait les gens. Hein? Et les films d'action, parce que tous les hommes, moi je crois, on est appelés pour être des Indiana Jones dans le Seigneur, des Batman et des Superman. Et souvent c'est comme ça, on essaie de mais et il y a des aventures à faire avec le Seigneur, c'est incroyable. Des aventures à faire avec le Seigneur. Et je parle pas seulement des hommes, je parle des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont aventurières aussi. Hein? Dieu nous appelle à être des héros courageux, C'est le temps du courage, c'est le temps d'ouvrir notre voix. C'est le temps de dire, oui, je suis chrétien, et quoi? Et alors? Oui, je suis sauvé. Oui, je vais au paradis. J'ai pas peur de mourir, parce que je sais que pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est gagner. Je sais que la mort, c'est simplement une petite porte, parce que je sais que quand je meurs, je suis dans la présence de Dieu. Et quand on a cette assurance, quand on n'a pas peur d'expliquer notre foi, et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu, parce qu'on a besoin d'expliquer notre foi, que Jésus, il est venu pour tous les hommes, pour sauver chaque être humain. Et nous sommes ses ambassadeurs. Nous représentons un royaume. Moi, en Israël, quand je vais à l'ambassade de France, je rentre dans l'ambassade de France, ça sent la France. Il y a une odeur de France, je sais pas. C'est le papier, c'est je sais pas quoi. Tout le monde parle français, ça sent la France. C'est très différent. Je vais à Tel Aviv avec les falafels et tout ça. Je rentre dans le bureau, ça sent la France. C'est plus rigide, c'est la dignité, c'est l'ambassade. Voilà, une petite enclave française. Hein? Merci. Eh bien, nous sommes une petite enclave ici à Wavrin. C'est pas l'ambassade de France, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Nous parlons une autre langue. Hein? La langue souvent de la France, c'est la critique. Nous, on critique jamais. Nous, on bénit. On bénit, c'est vrai? Hein? Hein? Est-ce que vous savez parler la langue du royaume? C'est la bénédiction, c'est l'encouragement, hein? C'est la joie, voilà, c'est tous les fruits de l'esprit. Et on a les valeurs qui sont différentes. Dans le monde, hein, les valeurs morales sont très différentes. Nous avons des valeurs qui sont différentes. Pourquoi? Parce que nous vivons un royaume qui est le royaume de la justice, le royaume de la sainteté. Et nous sommes tous des ambassadeurs. Tu es ambassadeur. Je viens pour toi parce que je sais pas, le Seigneur il t'aime là, je sais pas pourquoi. Il m'attire à toi. Voilà. Tu es un ambassadeur pour le royaume. Une ambassadrice. Ambassadrice. Vous êtes tous des ambassadeurs, vous êtes tous des princes, des princesses. Et je crois qu'il faut revenir à cette identité. Satan, tu es un menteur, tu m'as menti pendant des années et maintenant je refuse tes mensonges. Et j'accepte l'identité que tu m'as donnée. Je suis un fils du royaume, un ambassadeur. Je suis un vaillant héros. Seigneur, ouvre ma bouche afin que je puisse annoncer ta bonne nouvelle. Retire toute crainte de l'homme de moi. Retire toute peur, Seigneur. Seigneur, je te demande de chasser cette peur de moi, de chasser cette peur d'affirmer qui je suis dans ma foi. D'avoir honte de l'évangile, Seigneur. Je ne veux pas avoir honte de toi. Je veux être fier de toi. Je veux, Seigneur, pouvoir annoncer ce que tu as fait dans ma vie, raconter ce que tu as fait dans ma vie. Et Seigneur, je te demande de me parler. Seigneur, je te demande de pas seulement me parler à travers les enseignements, à travers les pasteurs, à travers les frères et les sœurs qui ont plus de maturité que moi, mais je veux entendre ta voix dans ma chambre. Dans mon jardin, Seigneur, je veux te demander, Seigneur, que tu me fasses la grâce que tu as fait à Samuel. Parle, Éternel, car ton serviteur t'entend. Parle, Éternel, à chacun d'entre nous ici. Je prie, Seigneur, que dans cette semaine, nous puissions avoir une révélation de toi, face à face, cœur à cœur. Que tu puisses, Seigneur, nous faire entendre ta voix. Nous faire entendre notre nom par toi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de fortifier chacun d'entre nous ici, de nous encourager, de nous bénir, Seigneur, et de faire que nous soyons, Seigneur, des ouvriers de paix, des ambassadeurs pour le royaume, et que nous préparions pour les mauvais temps à venir, quand les gens, des foules vont venir et vont dire « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ? J'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin d'aide. » Seigneur, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs sur la terre. Seigneur, tu es la tête du corps. Nous sommes tes jambes, tes pieds, ta bouche. Seigneur, utilise-nous. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans nos ministères, dans nos dons, nous sommes tous appelés, Seigneur, à te servir. Parle, Éternel. car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen.